Le psychologue fit mine de revenir à son projecteur, mais la main qu'elle avait posée sur son épaule ne le lâchait pas. Elle sentait nettement l'os sous la manche. On aurait dit que la chair avait fondu depuis leur arrivée sur Trentor. Son visage était émacié, jaunâtre, mal rasé. Même assis, il était voûté. « Magnifico ne vous ennuie pas, n'est-ce pas, Aibling ?» demanda Beta. « Il a l'air de passer tout son temps ici. »«
Non, 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 pas du tout. Il ne me gêne pas, il se tait et ne me dérange jamais. De temps en temps, il m'apporte les films. Il a l'air de savoir ce que je veux avant même que je le lui demande. Laissez-le donc faire. »
« Très bien. » Mais, Aibling, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez lui qui vous étonne? Vous m'entendez, Aibling? Il n'y a pas quelque chose de bizarre chez lui? Elle approcha un fauteuil du sien et le dévisagea, comme pour lui arracher une réponse du regard.
Non,
fit Aibling Miss, en secouant la tête.
Que voulez-vous dire?
Ce que je veux dire, c'est que le colonel Preacher et vous-même dites tous deux que le mulet peut conditionner les émotions des êtres humains. Mais en êtes-vous sûr? Magnifico lui-même, n'est-il pas une faille dans la théorie? Il y eut un lourd silence. Beita réprima une furieuse envie de secouer le psychologue pour le faire réagir.
« Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui ne va pas, Aibling ?»« Voyons, Magnifico était le bouffon du mulet. En ce cas, pourquoi n'était-il pas conditionné pour éprouver à son égard amour et foi, comme tous les autres? Pourquoi de tous les intimes du mulet faut-il que ce soit justement lui qui le déteste tant ?»« Mais si, il était conditionné, bien sûr que oui, mais... »
Aibling Miss semblait reprendre de l'assurance à mesure qu'il parlait.
« Imaginez-vous que le mulet traite son clown comme il traite ses généraux. Chez ceux-ci, il veut trouver foi et loyalisme, mais chez son clown, il n'a besoin que de trouver de la crainte. Vous n'avez jamais remarqué que l'état de perpétuelle panique où se trouve Magnifico a un caractère pathologique? Pensez-vous qu'il soit naturel pour un être humain d'être aussi affolé qu'il l'est tout le temps? Une peur pareille, ça en devient comique à la limite. Or, justement, le mulet devait trouver ça très amusant. Et ça l'arrangeait aussi dans un certain sens, puisque ça compromettait l'assistance que nous aurions pu obtenir de Magnifico, en tout cas au début.
« Vous voulez dire, reprit Beita, que les renseignements que Magnifico nous a donnés sur le mulet étaient faux ?»«
En tout cas, ils étaient susceptibles de nous égarer. » Car ils étaient déformés, filtrés par un sentiment de peur pathologique, incontrôlable. Le mulet n'est pas le colosse que Magnifico croit qu'il est. C'est plus probablement un homme ordinaire, mis à part ses facultés mentales. Mais si cela l'amusait de faire figure de surhomme auprès du pauvre Magnifico...
Le psychologue haussa les épaules.
Mais peu importe à présent. Les renseignements de Magnifico ne nous sont plus d'aucune utilité.
Comment cela? Sans répondre, Miss se dégagea de l'étreinte de Beita et revint à son projecteur.
Comment cela?
Répéta Beita. Qu'est-ce qui peut nous être utile alors? La seconde fondation?
Est-ce que je vous ai dit quelque chose à ce propos?
Demanda le psychologue en se tournant brusquement vers elle, les yeux exorbités.
« Je ne m'en souviens pas. Je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce que je vous ai dit ?»«
Rien, » fit Beita avec force.
« Par la galaxie, c'est bien le problème. Vous ne m'avez rien dit. Et croyez-moi, je le regrette, car je suis fatigué de tout ça, si vous saviez. Mais quand est-ce que ça va donc finir ?»
Aibling Miss la contempla avec une vague tristesse.
Allons. Voyons, je vous en prie, cher enfant. Je ne voulais pas vous blesser. J'oublie parfois qui sont mes amis.
Il me semble quelquefois que je ne devrais pas parler de tout cela. Il faut garder le secret.
Mais vis-à-vis du mulet, pas vis-à-vis de vous, mon enfant,
fit-il en lui tapotant l'épaule gentiment.
Qu'avez-vous découvert à propos de la seconde fondation ? Demanda-t-elle.
D'une voix sifflante, réduite comme par habitude à un simple murmure discret, le vieil homme répondit alors
« Si vous saviez avec quel soin Seldon a brouillé les pistes, les comptes rendus de l'Assemblée ne m'auraient pratiquement servi à rien il y a un mois avant que je me découvre doué de cette étrange intuition qui m'a permis finalement de m'y retrouver, de progresser. Mais même ainsi, la piste me semble bien fragile. Les documents laissés par l'Assemblée paraissent souvent décousus, sans lien véritable entre eux, et ils ne sont jamais faciles à interpréter. Je me suis demandé plus d'une fois si les membres de l'Assemblée eux-mêmes étaient vraiment au courant de tout ce que Seldon avait derrière la tête. Parfois, je pense qu'il n'a utilisé l'Assemblée que comme une gigantesque couverture à l'abri de laquelle il a pu développer, seul et sans assistance, la structure.
« Des fondations ?» demanda Beïta, impatiente de savoir.
« De la seconde fondation. » « Notre fondation était un projet d'une grande simplicité. Mais la seconde fondation, elle, n'était qu'un nom. Elle existait sur le papier, mais pour ce qui est des détails, si tant est qu'il y en ait, c'est dans les calculs eux-mêmes qu'il faut aller les chercher. Il y a encore beaucoup de choses que je n'arrive même pas à comprendre, mais depuis 7 jours, les pièces du puzzle commencent à se rassembler. Une image commence à prendre forme. La fondation numéro 1 était un monde de physiciens. Les ultimes forces vives de la science, de toute une galaxie rassemblée dans les conditions propres à en assurer la renaissance. Pas de psychologue, étrange carence, qui n'était certainement pas fortuite. L'explication habituelle, c'était que la psychohistoire de Seldon fonctionnait au mieux là où les unités individuelles à l'œuvre, les êtres humains, ignoraient ce qui allait survenir et pouvaient donc réagir naturellement à toutes les situations. Vous me suivez, ma chère ?
Oui, docteur.
Alors écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. La fondation numéro 2, elle, était un monde de spécialistes des sciences psychiques. C'était le reflet, l'image inversée de notre monde à nous. C'est la psychologie, et non plus la physique, qui dominait sur ce monde-là. Vous comprenez ?
Fit-il d'un ton triomphant. Pas du tout.
Mais réfléchissez donc, Beïta. Servez-vous de votre tête. Harry Seldon savait que la science de la psychohistoire qu'il avait mise au point ne pouvait aboutir qu'à des probabilités, pas des certitudes. Une certaine marge d'erreur était inévitable. Et à mesure que le temps passait, cette marge ne pouvait qu'augmenter de façon géométrique. Seldon voulait naturellement s'en protéger autant que possible. Notre fondation était une société de premier plan du point de vue scientifique. Elle était susceptible de vaincre des armées entières, de s'approprier leurs armes. Elle était capable de vaincre la force par la force. Mais que faire en cas d'attaque psychique de la part d'un mutant comme le mulet ?
C'est là que les psychologues de la seconde fondation sont censés entrer en scène, fit Beïta, qui sentait l'excitation monter en elle.
« Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. »
« Mais ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. »«
Qu'en savez-vous ? »
Beïta réfléchit. « Je n'en sais rien. Avez-vous des preuves qu'ils existent ?»«
Non. De nombreux facteurs m'échappent encore. La seconde fondation n'a pas pu être établie d'emblée à son point final de développement, pas plus que la nôtre ne l'a été d'ailleurs. Il nous a fallu nous développer, graduellement, et notre force s'est accrue au fil du temps. Il a dû en aller de même pour eux. Qui sait à quel stade de développement ils en sont maintenant? Sont-ils assez forts pour combattre le mulet? Ont-ils conscience du danger? Ont-ils des chefs capables de faire face à la situation?
Mais s'ils se conforment au plan de Seldon, alors le mulet n'a aucune chance. Il doit mathématiquement être vaincu par la seconde fondation.
« Ah !»
s'exclama Ebling Miss d'un ton songeur.
« Est-ce que cela fonctionne toujours ainsi ?»« Là est tout le problème. La seconde fondation était une entreprise plus difficile que la première. Elle est infiniment plus complexe et plus sujette, par conséquent, à des possibilités d'erreur. Et si la seconde fondation se révélait incapable de vaincre le mulet, alors ce serait grave. Extrêmement grave. Ce serait peut-être la fin de la race humaine telle que nous la connaissons.
Non,
mais si. Si les descendants du mulet héritent de ses facultés mentales, vous comprenez?
L'Homo sapiens ne pourrait pas lutter. Il y aurait une nouvelle race dominante. Et l'Homo sapiens serait relégué au rang d'esclave en tant que membre d'une race inférieure.
Vous ne croyez pas?
Si, évidemment.
Et même si, par quelque hasard, le mulet ne fondait pas une dynastie, il établirait quand même un nouvel empire qui ne reposerait que sur son pouvoir personnel. Cet empire serait voué à disparaître après sa mort. La galaxie se retrouverait là où elle en était avant sa venue. À cela près qu'il n'y aurait plus de fondation autour de laquelle un véritable second empire solide et sain pourrait se reformer. Cela signifierait des milliers d'années de barbarie.
Que pouvons-nous faire? Pouvons-nous vraiment avertir la seconde fondation?
Il le faut. Sinon, il risque d'échouer, faute d'être en possession de tous les éléments du problème. Et c'est un risque que nous ne pouvons prendre. Mais il n'y a aucun moyen de les avertir.
Aucun moyen?
Je ne sais pas où ils sont. Ils sont à l'autre bout de la galaxie. C'est tout ce que nous savons. Le choix est immense. Des millions de mondes.
Mais, Ebling, qu'est-ce qu'ils en disent là-dedans? Fit-elle en désignant les microfilms qui encombraient la table.
J'ai cherché. Mais, en tout cas, là où j'aurais pu logiquement trouver l'information, il n'y a rien.
Le fait que cette information soit si soigneusement dissimulée doit forcément signifier quelque chose.
Il doit y avoir une raison.
Une lueur étonnée passa de nouveau dans son regard.
Mais j'aimerais que vous partiez. J'ai perdu assez de temps et je n'en ai plus beaucoup à ma disposition. Je n'en ai plus beaucoup.
Il se retourna vivement, maussade et agacé. Magnifico approchait de son pas souple.
Votre mari est rentré, gentille dame.
Ebling Miss ne salua même pas le clown. Il était déjà retourné à son projecteur. Ce soir-là, Thoran, après avoir écouté le récit de Beïta, lui dit « Et tu crois vraiment qu'il a raison, Bey? Tu ne crois pas qu'il… » Il hésita. « Il a raison, Thor, crois-moi. Mais je sais bien qu'il est malade. Il a changé, il a maigri, il ne parle plus comme avant. Il ne va pas bien, c'est évident. » Mais dès qu'on lui parle du mulet, de la seconde fondation ou d'un sujet sur lequel porte ses recherches, il est comme transfiguré. Il n'y a qu'à l'écouter. Il redevient lucide. Sa pensée est à nouveau claire, comme l'espace. Dans ces moments-là, il sait de quoi il parle, j'ai confiance en lui. Alors, il y a encore de l'espoir, dit-il. C'était presque une question.
Je ne sais pas encore très bien que penser. Peut-être que non. Désormais, je porte un désintégrateur sur moi.
Tout en parlant, elle brandissait une arme au canon luisant. À tout hasard, Thor. À tout hasard. Comment ça ?
Peu importe, dit Beïta avec un rire un peu forcé, presque hystérique. Peut-être que je suis en train de perdre un peu la tête ?
Comme Ebling Miss. Il restait alors à Ebling Miss 7 jours à vivre. Et ces 7 jours s'écoulèrent l'un après l'autre, paisiblement. Pour Thoran, ces 7 jours passèrent comme un rêve éveillé. Dans la douceur du jour, le silence perpétuel des grandes salles vides, il se sentait envahi par une léthargie irrésistible. L'action semblait avoir déserté son existence. Il avait l'impression d'hiberner. Entité mystérieuse, dont le travail de taupe restait invisible à l'œil nu, Miss poursuivait son œuvre. Il s'était barricadé. Ni Thoran ni Beïta ne pouvaient le voir, seul Magnifico assurait la liaison, leur prouvant ainsi que le vieil homme était encore en vie. Magnifico ne disait plus un mot. Il semblait préoccupé. Il apportait et emportait les plateaux de nourriture sur la pointe des pieds. On l'apercevait, tapis dans l'ombre, vigie silencieuse et attentive. Beïta, elle aussi, avait changé. Elle avait perdu de sa vivacité, de son assurance. Elle aussi se repliait sur elle-même. Survenant à l'improviste, Thoran l'avait même surprise en train de jouer avec son désintégrateur. Elle l'avait aussitôt rengainé avec un sourire forcé. « Qu'est-ce que tu fais avec ça, Beï ?»«
Rien. Je le tiens, c'est tout. C'est un crime ?»«
Tu vas te faire sauter la cervelle, idiote. »«
Et après ?»«
Ce ne serait pas une grande perte. » La vie conjugale avait au moins appris une chose à Thoran. Il est vain d'essayer de discuter avec une femme lorsqu'elle est de mauvaise humeur. Il haussa les épaules et la laissa seule. Le dernier jour, Magnifico arriva hors d'haleine. Il les prit par le bras, l'air affolé.
« Le savant docteur vous demande. Il ne va pas bien. »
Miss n'allait pas bien, en effet. Il était au lit, les yeux écarquillés, brillant d'une lueur inhabituelle. Il était sale, méconnaissable.
« Ebling !» s'écria Beïta.
« Laissez-moi parler !»
articula péniblement le psychologue, en se soulevant tant bien que mal sur un coude.
« Laissez-moi parler !»« C'en est fait de moi !»« Je vous laisse continuer mon œuvre !» Je n'ai pas pris de notes et j'ai détruit mes brouillons. Nul autre ne doit savoir. Tout doit rester dans vos esprits.
Magnifico, dit Beïta brutalement, remonte! À regret, le clown se leva et fit un pas en arrière. Ses yeux tristes étaient fixés sur Miss. Celui-ci eut un geste là.
Ça n'a pas d'importance. Qu'il reste. Reste, Magnifico.
Le clown se rassit aussitôt. Beïta baissa les yeux. Lentement, très lentement, elle se mit à mordiller sa lèvre inférieure.
Je suis convaincu,
murmura Miss d'une voix rauque,
que la seconde fondation peut l'emporter si elle n'est pas prise au dépourvu par le mulet. Elle a maintenu le secret sur sa propre existence. Il ne faut pas briser ce secret, il a un but. Il faut que vous alliez là-bas les informations que vous possédez sont d'une importance capitale. Elles peuvent faire la différence, vous m'entendez ?
Oui, oui,
s'écria Thoran au comble du désespoir.
Dites-nous comment aller là-bas, Ebling, où est-ce ?
Je peux vous le dire à présent,
murmura faiblement le vieil homme. Il n'en eut jamais l'occasion. Beïta, pâle comme une morte, braqua son désintégrateur
et tira. Le fracas de la détonation se répercuta sous les voûtes de la bibliothèque. La partie supérieure du corps de Miss venait de disparaître en fumée, et un trou béant s'ouvrait dans le mur derrière lui. Beïta ne sentait plus ses doigts. Elle laissa échapper son désintégrateur qui tomba sur le sol.